Matthieu chapitre 15, versets 21 à 28. Une femme étrangère croit en Jésus. Au nom de Jésus. Puis Jésus partit de là et s'en alla dans la région proche des villes de Tyr et de Sidon. Une femme cananéenne qui vivait dans cette région vient à lui et s'écria, « Maître, fils de David, aie pitié de moi. Ma fille est tourmentée par un esprit mauvais, elle va très mal. » Mais Jésus ne répondit pas un mot. Ses disciples s'approchèrent pour lui adresser cette demande, « Renvoie-la, car elle ne cesse de crier en nous suivant. » Jésus répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues du peuple d'Israël. Mais la femme vint se mettre à genoux devant lui et dit, « Maître, aide-moi. » Jésus répondit, « Il n'est pas bien de prendre la nourriture des enfants et de la jeter aux chiens. » « c'est vrai, maître, » dit-elle. Pourtant même, les chiens mangent les morceaux qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui répondit, « Oh, que ta foi est grande, il te sera fait selon ce que tu désires. » Et sa fille fut guérie à ce moment même. Amen. L'indifférence face à la souffrance des autres est toujours insupportable et inacceptable. On dit même que c'est inhumain quand on voit la souffrance d'une personne et qu'on a la capacité de faire quelque chose, mais pourtant on ne veut pas intervenir. Nous crions tous scandale, inhumain. Et même devant la loi, cette attitude est condamnable. Non-assistance de personnes en danger. Mais si nous avons suivi la lecture de tout à l'heure, dans un premier temps, l'attitude de Jésus vis-à-vis de la femme syrophénicienne, une cananéenne, semble être inhumain. Un Jésus que nous disons bon est inhumain ici. Et ce n'est pas fini. Il laisse faire ses disciples qui chassaient la femme, implorant du secours à Jésus pour sa fille qui était malade. Et pas n'importe quelle maladie, c'était une personne qui était perturbée par un mauvais esprit. Et ce n'est pas tout. Pour vous bien mettre en valeur la gravité de ce que Jésus a fait, Jésus rejette dans un premier temps la demande de la femme avec des mots très durs, au verset 27. Verset 26 plutôt. « Il n'est pas bien de prendre la nourriture des enfants et de la jeter aux chiens. » Jésus a comparé la femme cananéenne et sa fille comme des chiens. Je ne sais pas pour nous, ici en Europe, comment nous comprenons cela. Mais rappelons-nous, ce sont des gens qui vivent en Orient. Et dans la culture orientale, c'est passible de condamnation à mort quand on traite quelqu'un de chien. Mais c'est ce que Jésus a dit. On pourrait même dire qu'on ne reconnaît plus le Jésus que nous connaissons. Ce Jésus qui est si doux, gentil, attentionné. Donc la question qui se pose tout de suite, mais que s'est-il passé pour qu'il se comporte ainsi? Alors il est bien mentionné au verset 21 que Jésus allait partir en Tyr et Sidon. Puis Jésus partit de là et s'en alla dans la région proche des villes de Tyr et de Sidon. Si l'auteur a mentionné cela, ce n'est pas juste pour embellir le texte. Ce n'était pas juste des moments de vacances où Jésus voulait faire une petite balade, mais c'était vraiment dans le programme de Jésus d'y aller. Et dans notre propre lecture à nous, moi y compris, nous avons toujours la tendance de penser que c'est la femme qui allait vers Jésus en premier. Mais finalement, non. Si nous lisons bien le texte, c'est Jésus qui a pris la décision d'aller dans le territoire de Tyr et de Sidon pour une raison bien précise. Jésus n'était pas là par hasard, juste pour voir le coin. Il partit de là et s'en alla à Tyr et Sidon. Le père de l'Église, Origène, a bien souligné la dynamique des deux versets, versets 21 et 22. Je vais vous relire les deux versets, et là nous allons comprendre où je veux en venir. « Puis Jésus partit de là et s'en alla dans la région proche des villes de Tyr et de Sidon. Une femme cananéenne qui vivait dans cette région vint à lui et s'écria, et ainsi de suite. » Donc regardez bien la dynamique entre ces deux versets. Jésus partit de là pour Tyr et Sidon, et une cananéenne qui vivait dans cette région vint à lui. Cela veut dire que la femme syrophénicienne n'a pu faire quelque chose ou n'a pu crier au secours à Jésus que si seulement Jésus a pris l'initiative d'aller dans cette région. Parce que c'était une cananéenne, elle ne pouvait pas aller dans la partie juive. Donc, quel que soit l'appel au secours de la femme, cela ne servait à rien que si seulement Jésus était présent. Alors déjà là, nous pouvons en tirer une conclusion. Souvent, nous aussi, nous croyons que c'est parce que j'ai crié vers le Seigneur qu'il a entendu mes prières. Je fais toujours cette réflexion suivante et je le redis à chaque fois. Lorsque nous pensons avoir reçu une réponse à nos prières, est-ce que cela est dû à notre façon de présenter la situation devant le Seigneur? Est-ce que parce que nous nous sommes agenouillés pendant 2 heures? Est-ce que c'est parce que nous avons jeûné pendant des semaines? Est-ce que c'est parce que j'ai versé pas mal d'argent dans la caisse de l'Église? Est-ce que c'est parce que moi j'éduque bien mes enfants? Est-ce que ceci et cela pour que Dieu soit favorable à mes demandes? Parfois nous sommes tentés à théoriser ces instants de grâce. Et ça, c'est un péché. Si on dit « oui, j'ai reçu une réponse à ma prière parce que », dès qu'il y a un « parce que », là, on fait fausse route. Et ces temps-ci, à la télé, à la radio, il y a des gens qui profitent et nous entendons des personnes qui disent « voilà, ils prétendent avoir le secret de la réponse aux prières. » Et ça marche comme formule. Veux-tu avoir une réponse à tes prières plus vite, de façon plus rapide, comme si c'est eux qui détiennent le secret? Comment faire pour avoir des réponses à mes prières? Ça, ce genre de message fonctionne bien et fait beaucoup de victimes. Pendant mes vacances, j'ai vu des reportages où il y avait des gens qui prêchaient, un pasteur ou un prédicateur, je ne sais pas trop. Et pendant la prédication, ceux qui ont été touchés par le message venaient et versaient de l'argent devant. Pendant la prédication, ce n'est pas pendant l'offrande. Et pour eux, plus on fait cela, plus Dieu va les répondre à leurs demandes. Non, Dieu ne fonctionne pas comme cela, chers frères et sœurs. Nous ne pouvons pas le mettre dans une boîte pour essayer de savoir comment il fonctionne. Et justement pour éviter certaines prétentions, l'attitude de Jésus vis-à-vis de la femme est faite exprès. Non pas du tout pour rabaisser la pauvre ici qui était déjà dans une situation délicate, mais c'était tout un programme pour tout le monde, pour la population, pour les disciples et pour les juifs. Car Tyre et Sidon est bien connu dans la Bible, surtout dans l'Ancien Testament. Par exemple, dans le livre d'Ézéchiel, il est dit que la population et les dirigeants de ce territoire étaient arrogants et suffisants. Ils se considéraient au-dessus des autres nations. Ils étaient les plus intelligents. Et même, il est dit dans Ézéchiel chapitre 28, le roi de Tyre et de Sidon à l'époque croyait être la personnification des dieux. Alors nous pouvons donc comprendre maintenant pourquoi Jésus avait un ton très dur. Parce qu'il ne s'adressait pas à la femme, il lançait un message à toute la population qui était présente. Il n'avait rien contre cette femme, rien du tout. Jésus donnait une leçon d'humilité à la population de Tyre et de Sidon à travers cette femme syrophénicienne. Jésus a montré que la grandeur d'une personne ne se situe pas dans le statut qu'il réclame. La grandeur de la femme se situait dans le fait qu'elle a accepté sa vraie place où elle était, au plus bas, puisque sa fille a été tourmentée par un mauvais esprit. Ce n'est pas toujours évident pour un être humain d'accepter que nous ne sommes rien du tout. Oui, c'est ça le péché originel. Nous voulons être des dieux. Nous ne voulons pas accepter notre place, un humain. C'est intéressant de voir que le texte mentionne ici les mauvais esprits. Et je ne vais pas faire de la démonologie, rassurez-vous. Mais si l'auteur a mentionné ce détail, ce n'est pas du tout anodin. Et donc, avec tout ce qui est dit et en lien avec cette partie-là, cela me fait rappeler justement ce péché originel avant la chute de l'homme. Ce péché originel, c'est le fait que le diable n'acceptait pas la place qu'il avait, qui pourtant était déjà bien placée. Mais il voulait encore plus, il voulait le trône de Dieu, être au-dessus de Dieu. C'est ce qui courait à sa perte. Et c'est toujours cette fibre-là qu'il a transmis à l'homme quand il a tenté l'humain. Vous serez comme lui. Rappelez-vous de la phrase du serpent à la femme. Non, tu ne seras pas morte. Vous serez comme lui. Et là, elle a ouvert ses yeux. Et regardez en parallèle ici, c'est une femme aussi. La femme syrophénicienne, contrairement à Ève, elle s'est agenouillée. Ève qui s'est justifiée en disant « Mais non, ce n'est pas moi, mais ceci et cela. » Elle, au contraire, elle a dit « Oui, Seigneur. » Elle s'est agenouillée pour dire qu'elle est complètement à bout, qu'elle n'a plus rien à s'accrocher. Et tout ce que Jésus lui disait, elle les acceptait. Oui, c'est ma situation. Alors là, Jésus ne reste pas insensible devant quelqu'un qui n'a pas d'attitude arrogante quand il vient s'adresser à lui. Et n'oublions pas que nous ne sommes pas en position de force d'imposer quelque chose au Seigneur. Rappelez-vous toujours de cela à chaque fois que vous venez en prière. Nous n'avons pas cette position de force d'imposer quelque chose à Dieu, de réclamer quelque chose à Dieu, quelle que soit la difficulté que nous traversons. Souvent, nous oublions cela, cet aspect-là. Oui, le Seigneur est ton frère. Oui, le Seigneur est ton père. Mais n'oublie pas, ton Seigneur est Seigneur. Il est Dieu. Cet aspect-là, on ne veut pas tellement le prendre en compte. C'est-à-dire qu'il est souverain. Il décide de ce qu'il veut, quand il veut, où il veut. Et il n'est pas obligé de donner des explications. Pourquoi ? Et d'où la déception de beaucoup de personnes lorsqu'il commence à étaler ce qu'il a déjà pu faire pour Dieu et attendre quelque chose en retour. Et là, il pense ne pas avoir assez de considération de la part de son Dieu. Et là, j'aime beaucoup le verbe qui est utilisé ici, j'aime beaucoup le verbe implorer par rapport à demander. Demander, c'est pas faux, mais il y a un autre niveau. Implorer, c'est vraiment attendre la grâce, la faveur de celui qui donne. Alors, qui suis-je pour réclamer des choses à Dieu et de lui réclamer de nous rendre compte? Rien ne l'oblige à faire quoi que ce soit. Mais par grâce, nous implorons sa miséricorde pour qu'il intervienne en notre faveur. Seigneur, si tu le veux, tu peux.